écoutons Ndenga FM.
Kabimba Mika Omar pour Radio Ndenga News.
Moba Brett Kisimba pour Radio Ndenga News.
Kabalo Henri Kalala pour Ndenga FM.
Manono Noé Mwamba pour Ndenga News.
Depuis Kindu, Arita Saïd Urid pour la radio Ndenga FM.
Douvira Françoise Bukuru Moumoulé Ndenga FM.
Depuis Missisi, Massimo Balo Le Valentin pour la radio Ndenga FM.
Kamanyola pour Ndenga News, je suis Hassan Chaban.
Bukavu, Jocelyn Baïga pour la radio Ndenga News.
Koma, Germain Tchoukou pour Ndenga FM.
Lubumbashi, Oscar Sombel, Ndenga News.
Depuis la province de Lomami, Sylvain Fizé-Boukati pour Radio Ndenga News.
Emmanuel Kalanji, Ambouche Maï pour la Radio Ndenga News.
Depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Guillaume Ngoyamissi pour la Radio Ndenga FM.
L'actualité, les divertissements, la culture de la province du Tanganyika et de la RDC, unis sur le même onde, Ndenga FM, le devoir d'informer.
Ndenga News, tout de suite le journal sur Ndenga News. Ndenga News, le journal.
Trois personnes emportées par les eaux des pluies et six autres sauvées de justesse et transférées dans des structures sanitaires de Bukavu. C'est le bilan provisoire d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la majeure partie de la ville de Bukavu la nuit de mercredi 4 janvier 2023. Plusieurs habitations ont perdu leur toiture suite à cette catastrophe. Les forces armées congolaises sont appelées au patriotisme et à la discipline afin de neutraliser les ennemis de la nation et les mettre hors état de nuire. Cet appel a été lancé le 4 janvier 2023 à Minembwe, dans les territoires de Fizi, par le chef état-major de FARDC en charge des opérations, le général-major Chiko Chitambwe. Vous êtes sur la 104, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Au sud Kivu, trois personnes emportées par les eaux des pluies et six autres sauvées de justesse et transférées dans les structures sanitaires de Bukavu. C'est le bilan provisoire d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur la majeure partie de la ville de Bukavu la nuit de mercredi 4 janvier 2023. À cela s'ajoutent des toitures de maisons et plusieurs biens des habitants endommagés suite à un vent violent. Malgré nos diversités, la République démocratique du Congo restera une et indivisible. C'est l'essentiel du message de la messe tenue à la cathédrale Notre-Dame de Bukavu, au sud Kivu, à l'occasion du 64e anniversaire de la Journée nationale de martyrs de l'indépendance de la RDC. Jocelyne Baïga avec plus de détails.
Ça fait 64 ans que les nôtres ont perdu la vie et équivaudrait 64 ans de la non-stabilité au pays. Les Congolais continuent à mourir du jour au jour. Cela étant, on ne doit pas accepter de souffrir. On doit désormais relever le défi en prospérant dans la paix et la joie. À l'issue de la messe, une marche de solidarité s'en est suivie de la cathédrale Notre-Dame de la paix de Bukavu jusqu'au monument des martyrs de l'indépendance à la Botte, où une gerbe de fleurs a été déposée par l'archevêque de Bukavu en compagnie par les anciens combattants qui ont pris part à la messe. Bukavu, Jocelyne Baïga pour la radio Ndenga News.
Ndenga News sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information des proximités.
Au Nord Kivu, l'heure est à présenter le bilan des activités réalisées en 2022 par l'hôtel de ville de Goma. À cela, la mairie de Goma présente un bilan positif mené au courant de l'année 2022, selon le vice-président du comité de paix et développement des 18 quartiers de la ville, dont la commune de Karisimbi, parle d'une réduction sensible du banditisme et de la criminalité urbaine à Goma. Innocent Safari Gassimba est au micro de Germain Tchukuru.
La population de la ville de Goma, surtout celle de Karisimbi. Début mois de juillet vers septembre de cette année écoulée, nous avons, ensemble avec les bourgmestres accompagnés par la jeunesse de la commune, les comités locaux de paix de la commune, le chef de bureau de la commune, le point focal de tous les chefs de quartier, nous avons organisé l'itinérance au niveau de l'ETD. Qu'est-ce qui a été vu? C'est qu'il y avait des questions de phénomène des 40 voleurs qui ont été réprimés ou répréhendés par les autorités de l'état de siège. Et maintenant, il y a une réduction sensible. Nous avons retrouvé les cas de vente de passeurs de manière superposée dans certains quartiers, notamment à Mugunga, à Bujovu. Toutes ces questions ont retenu l'aspect ou ont retenu l'attention de l'autorité. Nous avons trouvé les cas de femmes et de jeunes filles qui se livrent aux questions de la sexualité pour obtenir l'argent facile. Toutes ces questions ont attiré l'attention de l'autorité. Nous avons également trouvé les enfants de la rue. Voilà autant de questions qui ont préoccupé l'autorité et les pistes de solutions ont été envisagées. Et ensemble, je vais vous dire qu'au cours de cette année 2012-2022, vers le mois de décembre, vers la fin, nous avons tenu une réunion du secrétaire permanent devant des commissions autour du bourgmestre qui nous a chargé de produire des propositions pour que 2023 soit une année décisive et aller vers le développement tant voulu. Et c'est l'occasion pour vous dire que ce développement ne se fait pas d'une manière un peu disparate. Ça se fait autour de ce qu'on appelle le plan local de développement. Et le premier plan arrive à son terme avec 2022. Donc, janvier-mars 2023, on est en train d'élaborer le nouveau plan. Et c'est ça la ligne que l'autorité nous a. Des cohabitations entre la population et les autorités de l'état de siège. Comme vous le savez, l'état de siège a été instauré au Nord Kivu il y a une année, quelques mois. Et juste après les nominations, il y a ceux qui ont été déployés et dans cette année 2022. C'est un premier moment. Un deuxième moment historique de cette.
Au Sud Kivu, les forces armées congolaises sont appelées au patriotisme et à la discipline afin de neutraliser les ennemis de la nation et les mettre hors état de nuire. Cet appel a été lancé le mercredi 4 janvier 2023 à Minembwe, dans les territoires de Fizi, par le chef d'état-major de FARDC en charge des opérations, le général-major Chiko Chitambwe Jérôme, lors de parades avec les troupes militaires. Je vous propose de suivre un reportage de Françoise Boukourou, lu dans ses studios par Jérôme Batangui.
C'était au cours d'une visite de commandement et d'inspection qu'il effectuait dans cette partie de la province ici de Kivu. Arrivé ce mercredi à Minembwe, les sous-chefs d'état-major des FARDC en charge des opérations étaient accompagnés d'une forte délégation du secteur opérationnel Sokoladi sud des ici de Kivu, avec à sa tête les commandants en secteur, le général-major Ramazan Ifondi. D'après les porte-parole du secteur opérationnel Sokola D, sud du site Kivu, les patrons des opérations militaires s'y sont rendus pour une visite des commandements et d'inspection des troupes afin de s'imprégner de la réalité des capacités opérationnelles des unités qui œuvrent dans cette partie du pays, nous citons Minembwe. Le lieutenant Elongo Kiondoua marque et précise que, dès son arrivée, le général-major Chiko Chitambwe Jérôme a, au nom du commandant suprême des FARDC et du chef d'état-major général, félicité les militaires pour leur bravoure et les a appelés au patriotisme et à la discipline afin de neutraliser l'ennemi de la République et de les pousser hors état de nuire. La défense de l'intégrité nationale, la protection de la population et ses biens doivent être les socles de notre mission, comme FARDC a-t-il indiqué. Il s'y est de rappeler que c'est depuis le 1er janvier 2020 que la taxe force FARDC est à Minembwe dans le cadre d'une mission offensive contre tous les groupes armés locaux qu'étrangers œuvrant dans les hauts et moyens plateaux.
Branchez-vous sur Ndenga News. Sur 104.0 MHz, la référence de l'information.
Au Kasaï oriental, la route nationale numéro 1 qui relie la ville de Mbujimayi à Mweneditu dans la province de Lomami est en pleine réhabilitation. C'est le ministre national des infrastructures qui a donné le coup d'envoi des travaux le mardi 3 janvier à Bena Bilonda, territoire de Chilenge, aux environs de 25 km au sud-est de la ville de Mbujimayi. Emmanuel Kalonji nous a proposé un reportage. Voici les condensé dans cet élément de Paul Ilunga Boniface.
La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Alexis Guissaro, en présence des notabilités de la population locale venue pour la circonstance. De son côté, le ministre provincial des Infrastructures, Edgar Mosenga Chibangu, a eu des mots justes pour louer les efforts consentis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la matérialisation de ces projets qui n'est pas moindre. En dehors, de faciliter la voie de communication entre les deux provinces voisines, Lomami et Kasaï Oriental, ce projet est une opportunité d'emploi pour le riverain. Pour sa part, le ministre d'État, Alexis Guissaro, a donné avec éclaircissement la description du projet. Il consiste en la réhabilitation et modernisation de la route nationale numéro 1 pour une durée de 12 mois, exécutée par la société Siskeya. Ce projet est financé par le programme sino-congolais pour une bourse élevée à hauteur de 23 322 145 dollars américains avec l'objectif de parfaire les objectifs de la première phase. La deuxième phase du projet intervient 36 mois après la réception de la route construite à la première phase qui concernait les renforcements sur 16,6 km d'une route de 8 mètres de largeur constituée d'une chaussée de deux bandes de 3 cm chacune.
Retournons dans la province du Tanganyika ou dans les territoires de Kalemie. Il s'est fait constater depuis plusieurs mois la persistance de camps de déplacés sur le périphérie de la ville de Kalemie. C'est la suite aux récentes atrocités entre les communautés Twa et Bantu. Le chef de travaux Fazili Mwendi Richard de la formation de la sociologie et anthropologie de l'université de Lubumbashi, enseignant à l'université de Kalemie et chercheurs indépendants estiment que la persistance des sites des déplacés est due au contexte sécuritaire et social qui semble, selon lui, être précaire dans la province. Cet anthropologue et sociologue ajoute que la population déplacée craint que le groupe armé s'infiltre à tout moment dans leur village de provenance et qu'il ne soit pas victime de tueries barbares. On l'écoute au micro de Jérôme Batangui.
Si nous parlons de la persistance des camps de déplacés, nous devons d'abord analyser les contextes d'études. Il y a beaucoup de solutions qui viennent du sommet sans s'imprégner des réalités sociales. Et quand nous parlons du contexte social, on voit les contextes communautaires, on voit le ménage, les gens qui vivent dans ce ménage-là. Quand vous regardez bien, le contexte de la province du Tanganyika est confronté aux conflits interethniques. Ces conflits paralysent le ménage, paralysent le foyer. Il y a des gens qui quittent leurs milliers dans le village pour venir s'installer ici, au centre-ville. Ils n'ont pas une garantie sécuritaire. À tout moment, les groupes armés peuvent s'infiltrer dans leur village et ils seront victimes de tueries barbares. Et tout ça, ça fragilise des communautés. Mieux vaut de rester au camp pour ne pas être victime des groupes armés qui surgissent d'une manière brute dans ces milieux-là. Donc, le contexte sécuritaire volatile. Malgré qu'il y a des efforts du gouvernement, d'une part ou de l'autre, il y a des bases militaires, mais ils ne sont pas vraiment rassurés de ce contexte-là. Il y a des ménages de familles actuellement, compte tenu des crises humanitaires, des crises sociales. Ils préfèrent rester dans les camps de déplacés. Ça, c'est trop dur. Il y a des parents qui quittent leur famille pour aller ériger des sites de concentration, pour rester dans les camps de déplacés et pour attendre recevoir la nourriture. Donc, le contexte social est précaire dans la province de Tanganyika.
Ces chercheurs indépendants suggèrent au gouvernement de pistes de solutions en mettant en œuvre les mesures d'accompagnement afin que cette population refasse leur vie agricole dans leurs milieux respectifs. On l'écoute toujours au micro de Jérôme Batangui.
Donc on doit repenser et revoir avec le gouvernement comment on peut accompagner cette population. C'est une population vulnérable.
Alors vous, en tant que sociologue et anthropologue, qu'est-ce que vous allez partager au gouvernement afin de trouver solution à accompagner ces vulnérables-là?
Donc il y a des mesures d'accompagnement. Ce ne sont pas des mesures trop forcées, comme on l'a fait dans le gouvernement précédent. On vient avec un camion, on le met là, on le passe, les laisser comme des animaux dans leur village. Non, ça ce n'est pas de cette façon. Il faut qu'il y ait quand même des mesures d'accompagnement des populations. Il faut leur dire que voilà, nous savons que voilà, vous avez quitté vos ménages à cause de l'insécurité, n'est-ce pas? Et nous, actuellement, le gouvernement, nous allons mettre en place une mesure d'accompagnement avec une ONG qui peut les accompagner. Et comment ils peuvent encore refaire leur vie agricole, l'agriculture? Ce processus d'accompagnement doit être aussi accompagné par un processus sécuritaire. Il faut des mesures de sécurité. Il faut qu'ils soient garantis par la sécurité, pas de sécurité volatile.
Voilà ce qui met fin à notre édition du journal présentée par Nelly Ngungwa. La mise en onde a été assurée par Fabien Kibangula. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Si vous avez aimé également cette édition du journal, dites un grand merci à cette grande équipe rédactionnelle qui est chapeautée par Paul Ilunga Boniface. Vous informer est notre devise. Prenez soin de vous.